quand?
Couture.
Attendez-vous que vous ayez tout sauté un plomb.
Dans le mythe.
Avec Pierre Couture.
Ouais.
Et Nick Cloutier.
Ouais, ouais.
Radio. X.
Ouais, ça vient juste de sortir, là, parce que là, c'est le congrès de la CAQ qui est à Gatineau en fin de semaine. Et là, les députés de la CAQ sont tous là. Et là, c'est Bernard Drinville qui vient de dire que toute l'histoire des voitures électriques pour 2035, là, à l'électrique au complet, là, ben, on va reculer, on va abandonner cette idée-là. Parce qu'il dit on doit s'adapter, on regarde aller les choses en Amérique du Nord. Et vous avez vu les Américains, on a reculé là-dessus. Dans le reste du Canada, Mark Carney a annoncé qu'il reculait. Donc, oui, ben c'est ça, on recule.
Mais la CAQ, ça recule beaucoup, là.
Ça recule. Donc, voilà, les voitures électriques 2035, le Québec électrifié au complet. Parc automobile, là, oubliez ça, ça va être...
Mais c'est une bonne... Ça fait longtemps qu'on t'en parle, entre autres avec l'Institut économique de Montréal, que c'était complètement ridicule, cette espèce de loi-là.
Exact, exact.
Cet objectif-là.
Ouais. Autre chose qui fait beaucoup jaser, l'histoire de Saclic, là. Hier, Commission Gala continue en passant, là, Carl Malenfant n'est plus là. Mais hier, on a appris. Puis ça, c'est Michel Dumas qui est le boss, qui était le boss de LGS à l'époque, au Québec. Puis là, lui, ce qu'il dit, c'est que le logiciel qui a servi à sa clique était un logiciel de gestion de pièces d'entrepôt. Non, c'est pas des fans.
Quoi?
C'était pas un logiciel dédié à ce genre de transactions-là. Il a fallu modifier un logiciel avec SAP, notamment, et LGS, qui est une firme liée à IBM. Et lui, il dit, non, c'est pas des jokes, là. Il dit, c'était pour gérer, là, des... Le terme exact, là, c'est gestion de pièces d'entrepôt. Et ça s'invente pas, là. Michel Dumas... Par la suite, OK, on a tout su l'histoire, là, les dépassements de coûts, puis les heures facturées, puis à un moment donné, lui, il dit qu'LGS ne voulait pas se retirer, là, contrairement à ce que Malenfant dit.
Ben oui.
Mais après ça, le gouvernement l'a embauché, lui. Il l'a. Ah. Parce que lui, il est en train de piloter la transformation numérique de la CNESST. Donc, l'ex-vice-président d'LGS au Québec, Michel Dumas, a été embauché par le gouvernement du Québec à la CNE, ça s'invente pas. Ça s'invente pas, regarde, on mérite tout ce qui nous arrive.
Ah ouais.
Voilà, notre invité, voilà. Il est là, Luc Dupont, professeur de marketing à l'Université d'Ottawa. Luc, comment vas-tu?
Comment ça va, les gars?
Très bien.
Très bien, très bien, très bien. Écoute, tu voulais nous parler de la NFL aujourd'hui?
Oui, en fait, deux nouvelles depuis quelques jours, moi, qui m'ont fait sursauter puis qui nous rappellent comment on vit au pays du streaming. Alors, dans le cas de la NFL, ce qu'on a appris il y a quelques jours, c'est que évidemment, ils ont signé un contrat extraordinaire en 2021. 11 ans, 111 milliards de dollars sur 11 ans. Donc, si tu fais un calcul, tu dis 2021 plus 11, on devrait se rendre en 2032.
Ouais.
Donc, logiquement, tout le monde est content. 111 milliards, c'est une somme substantielle. Puis tu vois, je fais même le lapsus, 111 millions, mais c'est 111 milliards.
Milliards.
Mais là, ce qu'on apprend, c'est que, parce qu'évidemment, les propriétaires étaient réunis récemment, c'est que là, ils viennent de jeter un petit coup d'œil au contrat de la NBA qui vient d'être signé, qui implique entre autres Amazon. Alors, c'est un contrat où vous avez trois diffuseurs, donc télédiffuseurs. Puis en fonction même des saisons, des séries, c'est pas le même qui va retransmettre les matchs en question parce que là, on s'est comme partagé la tarte en trois, mais tout le monde voulait les matchs des séries. Alors, tu comprends qu'on n'a pas eu trop le choix. Puis ils ont regardé, curieusement, le contrat de la Ligue nationale de hockey au Canada. Je rappelle qu'au moment où on se parle, le Canada est deux fois plus payant que les États-Unis, même si on a beaucoup, beaucoup moins d'équipes. Puis donc, là, la NFL aurait contacté les gens qui ont signé ce contrat-là de 111 milliards en disant, écoutez, les gars, deux choses. Un, on regarde ce qu'on devait recevoir comme chèque, puis on trouve qu'on est exploité. On regarde la NBA, on regarde la Ligue nationale de hockey au Canada, puis on pense qu'on s'est fait avoir. Donc, on rouvre les enchères à nouveau. Mais là, évidemment, les télédiffuseurs disent « Mais attends un petit peu, on a une entente jusqu'en 2032. » Oui, mais relisez le contrat attentivement. Il y a une clause d'opting out en 2029, en d'autres mots.
On met de l'argent, puis arrive-moi avec de quoi d'intéressant, sinon on part ailleurs.
Oui. Oui, et je rappelle dans le cas de la NFL que c'est 90 des 100 shows de télé les plus écoutés annuellement
depuis
des années et des années et des années. Le seul show qui peut battre ça une fois de temps en temps, c'est, mettons qu'il y a une soirée électorale aux États-Unis. Là, momentanément, on est dans les 100 meilleurs. Mais sinon, c'est tout le temps la NFL. Alors, je précise parce qu'on est en début de saison, parce qu'on a appris que, par exemple, une petite portion des Patriots pourrait être vendue prochainement. Probablement un fonds d'investissement privé.
Oui, parce qu'on peut maintenant. C'est ça, là. La NFL permet maintenant d'acheter jusqu'à 10% d'une équipe par un fonds d'investissement, là.
Oui, et chaque ligue s'est donné comme ça un plafond. Certaines ligues ont mis le plafond un petit peu plus élevé. Alors, momentanément, ben tous ces gens-là font le tour puis se font faire des offres extraordinaires. Mark Cuban dit, moi, quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, donc, dorénavant, le but du jeu, c'est peut-être pas d'avoir un bon show sur le terrain, c'est peut-être de faire beaucoup de fric. Puis ça, c'est deux objectifs bien différents sur le plan sportif.
Ouais, Jerry Jones a compris ça, lui, à Dallas.
Oui, aussi, effectivement. D'ailleurs, il y a une très belle... télé, j'appellerais ça une télésérie, en fait, ou une télé-docu-réalité des Cowboys sur Netflix. Je suis persuadé que les gens qui nous écoutent ont regardé ça momentanément. Donc, c'est assez remarquable qu'au fond, à 111 milliards, t'as le sentiment que tu t'es fait avoir. Puis là, ben, les stations traditionnelles sont un petit peu coincées parce que s'ils rouvrent pas les enchères, ben, c'est sûr qu'en 2029, ils seront plus là. Alors, tu vois-tu comment ils sont un petit peu cuits? C'est une drôle de clause, au fond, cet opting out-là en 2029. Je trouve ça que c'est assez... C'est assez étrange. Donc, ça serait ma première nouvelle.
Mais ça a été bien négocié, parce que Goodell, on peut reprocher bien des affaires, mais lui, sur le cash, là, il amenait NFL à un autre niveau. Là.
Oui. Puis au moment de la signature, c'est un hit. Mais 4 ans plus tard, ben, on regarde ça et on dit c'est intéressant. Puis évidemment que 111 millions, c'est substantiel, mais on serait peut-être capable d'aller en chercher un petit peu plus. D'autant plus que, d'une part, les stations traditionnelles, eux autres comprennent bien que s'ils perdent cette poule au
c'est fini, dollars, là, terminé.
C'est terminé. Ouais. Puis dans le cas de Disney, et de Paramount, et de Warner, et de bien d'autres joueurs aussi, soudainement, on est intéressé à acheter ces droits de télé-là, puisqu'on parle de ces joueurs-là, de Warner et de Paramount. L'autre nouvelle que je trouve extraordinaire, et je pense que c'est la nouvelle jusqu'à maintenant, en tout cas certainement de l'automne sur le plan des médias, c'est qu'on est peut-être à deux doigts, les gars, d'un vrai compétiteur pour Netflix. Donc, certains me diront, YouTube, c'en est déjà un, puis YouTube est substantiel, mais c'est pas tout à fait le même modèle d'affaires.
Non, évidemment. C'est ça.
Mais c'est que là, on a quelqu'un qui a énormément d'argent. Alors, David Ellison, c'est le fils de Larry, je le précise pour les intimes. Alors, Larry, la semaine passée...
Oui, lui, il a fait du cash.
En fait, dans une journée, c'est pas des blagues, 100 milliards.
Wow!
Donc, on reste dans les milliards, puis on reste dans les centaines ici.
Oracle, alors, c'est ça.
C'est Oracle, évidemment. Et là, ben, la rumeur, c'est que Paramount, ben, c'est David, donc le fils de Larry, avec énormément d'argent, papa est pas si mal. Et Warner, ben, Warner, c'est Batman, c'est HBO, c'est Dune de Villeneuve, c'est Harry Potter, c'est Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est comme si on avait deux joueurs qui, au moment où on se parle, ne travaillent pas ensemble, donc deux entreprises, qui, dans les deux cas, ont du streaming, qui, dans les deux cas, ont de la télé. Dans le cas de Paramount, on a CBS. Qui, dans les deux cas, ont des studios. Évidemment, Paramount et Warner, historiquement, c'est des machines à préparer des hits. Qui auraient peut-être le goût de se mettre ensemble. Et ça ferait quelque chose de solide qui pourrait possiblement compétitionner fortement Netflix. Évidemment, en chiffre absolu, Paramount... c'est 5 % des films de Netflix. Parce que Paramount, au moment où on se parle, évidemment, sous-loue, mettons, disons ça comme ça. À des
catalogue et autres, là. Ouais.
C'est son catalogue, exact. Dans le cas de Warner, c'est 7 %. Donc, à deux, on me dirait, ben, c'est 12 %, c'est pas substantiel. Parce qu'on devine, évidemment, que si Paramount et Warner se mettent ensemble, ce catalogue-là disparaît. Mais là où ça devient amusant, c'est que c'est peut-être 12 % des films, mais cette année au cinéma... c'est 30 % des hits. En d'autres mots, malgré son 17 milliards par année, Netflix, dans le cas d'Amazon, c'est aussi beaucoup de milliards. D'Apple, pardon, c'est beaucoup de milliards aussi. Donc, malgré ces milliards-là de Netflix chaque année, les machines à hits, ça reste les studios. C'est des gens qui, historiquement, ont toujours fait des films, alors que Netflix, ben, ils sont dans cette industrie-là et ils font des films parce qu'évidemment, ils ne veulent pas être dépendants de Paramount et de Warner. Et je te rappelle, Pierre, qu'à l'origine, Disney qui se lance en streaming, C'est parce qu'à un moment donné, dans une réunion, il y a un gars qui est rentré chez Disney puis qui a dit « Où sont nos films? » Et il y a quelqu'un qui a levé la main en disant « Ben, ils sont chez Netflix. Mmh. » OK? Donc, tu es en train de me dire que
nos films
servent à Netflix plutôt qu'à notre propre business à nous autres.
Ouais.
Oui, mais ils nous donnent de l'argent en échange. Ils sont comme en location. Puis c'est le fun, c'est intéressant. C'est pas difficile à faire comme business. Et c'est là qu'évidemment, on a décidé de lancer le Disney Plus en disant, ben là, dorénavant, ce qu'on va faire, on va rapatrier nos films.
Exact.
On va les mettre.
Ça a été un très, très bon move, là. Après coup, regarde, là, c'était ça qu'il fallait faire pour Disney, là.
Oui, même si les profits, eux autres, sont au rendez-vous depuis très, très peu de, très, très peu de temps. Je rappelle d'ailleurs que Paramount, c'est aussi Top Gun, c'est Forrest Gump, c'est Le Parrain, et maintenant, c'est la UFC pour les 7 prochaines années.
Oui, exact.
Parce que dans le temps, pour regarder la UFC, il fallait s'abonner du pay-per-view. Ben, le nouveau modèle d'affaires à la UFC, c'est que ça va être présenté sur Paramount.
Fait que là, t'as pas mal d'éléments qui pointent vers peut-être la naissance d'un gros joueur de streaming qui s'en vient. Là. C'est ça que tu nous annonces.
Oui. Et là, le chiffre, au moment où on se parle, parce que évidemment en fonction de la journée, on ne parle pas du même montant, mais Paramount offrirait 70 milliards. Et quand cette rumeur-là a coulé dans le Wall Street Journal il y a quelques jours déjà, le titre de Netflix a reculé fortement.
Oui.
Parce que les gens ont compris tout de suite que, oups, dans le fond, les spécialistes des films à succès, ça reste les studios. Hein? C'est ça qu'ils sont capables de faire. Mais c'est pas les spécialistes du streaming. Mais là, si tu mets deux des spécialistes de films à succès, puis tu colles leur streaming, alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça donne 200 millions d'abonnés. Et dans le cas de Netflix, on est à 270 millions. Alors, vois-tu comment on serait pas très, très loin de créer pour la première fois un compétiteur, en tout cas, du moins dans le domaine du streaming, là, appelons-le traditionnel, même si ça existe depuis très, très peu de temps, somme toute, mais qui serait capable de chauffer Netflix.
Est-ce qu'il n'y a pas un danger où, à un moment donné, le consommateur se dit, là, moi, j'ai une limite, là. Là, à un moment donné, oui. Là, tu sais, moi, je payais 100$ d'abonnement à l'époque pour mon câble. Là, je suis rendu à 140, mettons.
De plateforme,
ouais. Là, j'ai plateforme à gauche, à droite, là, à un moment donné.
C'est ça.
C'est ça, exactement.
Et c'est ça le raisonnement derrière cette fusion-là, puis c'est de dire, on ne peut pas s'abonner. Puis je rappelle que techniquement, aux États-Unis, vous avez au-delà de 100 plateformes de streaming. Je ne dis pas qu'on les connaît, les 100, mais il y en a au-delà d'une centaine.
Il y en a, oui.
Puis il y a beaucoup de gens qui disent depuis longtemps, ben effectivement, dans le temps, tu m'avais dit que on arrêtait les bouquets, ce qu'on appelait les bouquets, là, où tu devais acheter telle station pour avoir accès à telle autre station sur la télévision traditionnelle. Tu m'avais dit, dans le temps, quand le streaming va arriver, on n'aura plus ce problème-là. Mais dans le cas de la NFL, pour reprendre cet exemple-là, cette année, si tu veux suivre la NFL puis regarder l'ensemble des matchs, il faut que tu sois abonné à 7 plateformes de streaming. Alors, là ça n'a pas de bon sens. Puis souvent, d'ailleurs, il faut que tu vérifies. Moi, je le fais sur Google. Je vérifie. Je dis, peux-tu me dire
qui
le match d'aujourd'hui, ouais, il est sur quelle plateforme?
Exact.
Puis évidemment, 3 fois sur 4, tu ne l'as pas, cette plateforme-là. Tu n'es pas abonné à cette plateforme-là. Alors, dans le cas de Paramount et de Warner, c'est de dire, mais nous, on est deux super bons pour faire des bons films, mais on n'est pas bons dans le streaming. Donc, ce qu'on pourrait faire, on pourrait se mettre à deux. Puis je rappelle que David et Larry, donc papa, est super important ici. Ben là, c'est ce qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est que TikTok, ça serait complété, là, la transaction pour
et
le pendant américain.
Et qui est là? Qui est au board?
Qui est là? Exact.
Voilà. Suivez exact, l'argent.
C'est Larry. Et David a dit récemment en entrevue, parce qu'on lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu vas avoir complété l'ensemble de tes rêves? Puis il dit, ben j'anticipe qu'un jour, on va utiliser des plateformes, par exemple les médias sociaux, pour diffuser des contenus plus denses. Alors, comprendre ici, par exemple, on rêve, là, juste pour le fun. TikTok, alors, je précise que pour les Américains, je ne sais pas ce qui va arriver du côté du Canada. J'ai beaucoup hâte de voir.
Ben, je pense qu'ils vont l'intégrer, là. Ça va être oui, Nord-Américain.
Moi, c'est drôle. Je t'aurais dit, Pierre, il y a un an, je ne reculerai pas loin, que c'est exactement ce qui va se passer. Sais-tu quoi? Je regarde la rhétorique actuelle au Canada, avec le parti au pouvoir à Ottawa, puis sais-tu quoi? Je ne suis pas sûr. Mais effectivement, logiquement, c'est ce qui arriverait. Alors, je rappelle que vous allez devoir télécharger une nouvelle application. Il va tout avoir une mécanique, là, avec une fois que tout ça va être officialisé. Mais qu'est-ce qui empêcherait Larry, et entre parenthèses, le fiston, d'utiliser TikTok pour diffuser des films de Paramount
et
de l'éventuelle fusion avec Warner. Ouais. Tu commences à pas être complètement capable.
Ouais. Ben oui.
Et là, dans le cas de TikTok, on la valorise à 14 milliards avec cette histoire-là américaine, là, où là, il va y avoir une division américaine unique. La division américaine serait valorisée à 14 milliards. Ça, ça valait à la bourse, là. Ça, c'est ByteDance, oui. la compagnie chinoise qui laisse une partie là, de son lunch à des compagnies américaines. Mais éventuellement, on va se reprendre parce qu'on va lancer à la bourse des actions éventuelles de TikTok. Et là, on va se reprendre, là, on va se repayer. Là.
Probablement en promettant, évidemment, d'ouvrir les frontières, d'arriver avec quelque chose de nouveau.
Ouais.
Et peut-être même de télédiffuser des matchs de la NFL ou du baseball majeur. Puis pour ceux qui diraient, mais ça, c'est un petit peu flyé ce que tu racontes là. Au moment où on se parle, tu peux regarder. J'ai vu un ou deux matchs de la MLS qui étaient offerts aux États-Unis où tu pouvais, sur TikTok, suivre Lionel Messi dans l'entièreté du match. Donc, c'est une caméra qui fait juste Lionel Messi. Elle fait juste suivre.
Et il y a du monde qui paye pour ça, là.
Puis je précise que la plupart du temps, il ne court pas parce que stratégiquement, puis j'ai regardé le dernier match là, qui était tout un match, je dois dire... le tout dernier, où je pense qu'il a fait quoi, deux buts remarquables. Et il en aurait pu en marquer un troisième sur un lancer de pénalty s'il avait pris le lancer en question, mais il l'a laissé à Suarez qui revenait de sa suspension pour comportement, mettons, déplacé après les matchs de la League Cup. Mais alors, tu peux le suivre et soudainement, ben, il se met à courir. Puis généralement, quand il court, il va se passer quelque chose.
Puis il y a des annonces, alors, là. Il y a des annonces pendant qu'on suit Messi, là. Hein?
Oui, oui, aussi. Et dans certains cas, selon les moments de la saison, alors quand tu es dans la League Cup, moi, j'ai vu quelque chose que j'ai pas vu souvent, c'est que le chandail de l'Inter Miami, c'est le Royal Caribbean, qui est évidemment la grande compagnie de croisière que l'on connaît, en tout cas normalement. Et le long du terrain, c'était la pub de Carnival, qui est le compétiteur de Royal. Je ne sais pas si vous réalisez, là, ça veut dire qu'ils veulent tellement la gang,
les
la
deux
crowd
sont là,
de Messi, qu'ils sont deux compagnies compétitrices. C'est comme si Pepsi était sur le chandail puis Coke achetait la publicité le long
et
du
la
terrain.
Base
c'est exactement ce qui se passe.
Ouais, puis la base, le siège social de une ou des deux compagnies, t'as Miami, c'est tout ça?
Oui. Oui, c'est ça.
Bon, c'est ça. Fait que tout est dans tout. Mais là, tu nous dis qu'il pourrait y avoir des matchs de la NFL sur Paramount, éventuellement, ou une plateforme. Là, il y a des joueurs qui s'accumulent. Il va manquer. Oui. Pour les traditionnalistes, là, les câbleaux, ou en tout cas les compagnies beaucoup plus traditionnelles qui ont des forfaits de matchs de la NFL, eux autres vont se faire tasser, là.
Ça complique beaucoup les choses. Et dans le cas de Paramount, on sent bien que si tu es capable de faire un chèque de 70 milliards, et moi, je ne serais pas étonné qu'à la fin, ça frôle les 100 milliards pour Warner, qui, il y a quelques mois seulement, savait plus trop quoi faire. Mm. Bon, Warner, c'est essentiellement c'est TV, plus streaming, plus studio. Puis là, il avait décidé qu'il prenait TV puis qu'il sortait. Alors, je reviens avec ta remarque, c'est ça. Tous ces grands réseaux-là actuellement, là, ces grands joueurs-là, qui, à un moment donné, avaient acheté de la télévision, au-delà de faire les films. Alors, quand on parle de ces grands joueurs-là, ils font des films, puis après ça, ils ont des stations de télévision pour diffuser les films qu'ils ont créés. Là, ils sont en train de dire, non, dans le fond, on la veut pas, la TV. Puis je vais même te lier ça avec un autre événement. Tu vois comment tout est dans tout, comme on dit communément. Je serais pas étonné que Disney, qui a eu des problèmes, évidemment, la semaine dernière. Alors, Disney, c'est ABC.
Oui.
C'est évidemment les problèmes avec l'humoriste qu'on a vu. Je ne serais pas étonné que Disney décide, au moment où Bob Iger va se retirer,
ouais,
à peu
ça
près
s'en
un
vient,
an
là,
demi,
ouais, ça s'en vient.
De vendre ESPN et ABC. Et dans le cas de ComSat, qui est un autre de ces très, très grands joueurs-là, ce qu'on a dit récemment, c'est que nous, on prend le pot de toutes les stations spécialisées. Alors, c'est CNBC, que tu écoutes certainement beaucoup, Pierre.
Oui.
Puis on dit, on met ça dans un pot, avec MSNBC, des fois, ça fait des mix.
Puis on swing ça à la bourse.
Puis on swing ça ailleurs. On ne veut plus rien savoir de ça. Alors oui, on est dans quelque chose comme ça. C'est comme si, soudainement, les gens disaient, ben si tu le veux, mon traditionnel, je te l'offre. Évidemment, je te l'offre pas au meilleur moment. Il a déjà valu pas mal plus que ça.
Mais on l'envoie sur une compagnie en bourse, mais on fait un bundle, puis on lève des capitaux.
En plus, le problème avec la télé traditionnelle, c'est que ponctuellement, je me retrouve au centre d'un scandale.
Ouais.
Ça me fait mal.
Ouais.
Donc, c'est pas une bonne idée. Alors, tiens, regarde ce qu'on fait. On prend ça, on tasse ça. Puis après ça, on se concentrera sur ce qu'on est capable de faire. Dans le cas de Disney, là, ce qui paye actuellement le pain puis le beurre au niveau des actions, c'est les parcs d'amusement.
Ouais.
Puis c'est vendre des billets de croisière, de billets de croisière. Fait qu'on on revient sur quelque chose qui est très, très basique, très loin du spectaculaire de ESPN puis de la TV traditionnelle.
D'ailleurs,
ça qui permet de faire du cash.
Oui, puis la NFL n'est pas en train d'acheter ESPN, en tout cas une participation là, de dans le réseau. Fait que je ne sais pas trop comment tout ça va finir. Là, à un moment donné, on va peut-être avoir des alliances. Mais moi, je vois plus loin que ça, parce que plus loin, on va finir avec ça. Moi, je pense que là, si on assiste à des consolidations de blocs comme ça d'Hollywood, là, on va peut-être laisser entrer éventuellement des Chinois ou des compagnies étrangères qui vont s'en venir aux États-Unis. Et là, on se prépare à être des gros joueurs pour bloquer ce monde-là éventuellement. Là. Je sais pas, on voit ça là, à venir, parce que habituellement, quand les autorités réglementaires donnent le feu vert à des grosses fusions comme ça, c'est parce qu'eux autres, ils ont deux coups d'avance, tu comprends?
Oui.
D'autres choses qui s'en viennent après, là.
Oui, puis dans un autre contexte, probablement que ces fusions-là seraient interdites.
Exact.
Mais là, on est dans un contexte où il y a trop de joueurs. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Alors, tant qu'il y a trop de joueurs, puis tant que ces plateformes-là représentent, au fond, quelques pourcentages, seuls, individuellement, je pense qu'on va fermer les yeux puis on va dire c'est pas si mal. Après tout, aujourd'hui, parce qu'on est dans un autre monde, mais si Facebook, aujourd'hui, tentait d'acheter Instagram, on s'entend que ça passerait pas.
Alors, ça serait un autre niveau, là.
Mais ça a passé.
Ouais.
Dans le temps.
Ouais, ouais.
C'est ça. Alors, c'est peut-être ce moment-là pour ces stations de télévision-là.
TikTok,
c'est,
ouais.
Ou ces grands joueurs-là.
Mais TikTok est chinois, là, tu sais. Donc, tu comprends, oui, il y a des intérêts. Oui. Puis là, on négocie des accords de libre-échange, puis il y a des tarifs. D'ailleurs, l'histoire de TikTok, le président chinois est très, très silencieux, là. On n'entend rien, là. C'est signal, ouais. C'est silence radio, ça aligne, là. Fait que ça d'après moi, on prépare la table pour autre chose.
Oui, c'est fort possible. C'est fort possible parce que je t'avoue que TikTok comme ça passe, en tout cas TikTok à États-Unis, appelons-le comme ça,
ouais.
Passe. Techniquement, il y avait déjà des choses qui se faisaient là, pour le serveur, mais qu'officiellement on fasse ce saut-là. Moi, tant que le big boss de la Chine ne va pas nous dire qu'effectivement c'est fait, sais-tu quoi? On va me garder une petite gêne.
Exactement.
Je ne le sais pas.
Exactement.
Je trouve ça étonnant.
Luc Dupont, toujours un plaisir, professeur marketing à l'Université d'Ottawa. Tu as des livres, tu as des conférences, tu as une plateforme, tu as plein d'affaires.
Oui, on se promène pas mal. La semaine passée, je faisais le kick-off de Remax avec sa nouvelle identité, logo, signature corporative également. Je suis retourné cette semaine mardi et je me promène effectivement pas mal à travers le Québec pour les conférences. Et au-delà de ça, il y a évidemment les cours, les livres aussi. Tout ça, vous avez ça sur Amazon d'ailleurs, pour ceux que ça peut intéresser.
L'infolette aussi, je pense. Hein?
Oui, l'infolette également. Et là aussi, c'est surprenant pour le nombre d'abonnés, je dois te dire. Et l'infolette, ben, c'est un marché. Je pense que visiblement, on sent bien qu'il y a une recrudescence là, actuellement. Parce qu'au fond, l'avantage de l'infolette, c'est qu'il y a quelqu'un qui se donne la peine de faire le tour de l'ensemble des nouvelles pour toi.
Oui, exact.
La réalité, c'est que les gens qui nous écoutent ne peuvent pas chaque jour faire le tour des nouvelles marketing. S'il y a quelqu'un qui le fait à leur place, ils ont simplement à recevoir ça, à lire tout ça, cliquer sur les liens. C'est pas si mal, finalement. Personnellement, moi aussi, j'ai mes infolettes. D'ailleurs, j'ai la tienne. Pierre, sur la
ben
finance.
Oui.
Puis j'en ai d'autres aussi. J'en ai sur les médias, sur le journalisme, etc. Je pense que c'est un beau produit, au fond. Puis c'est un avantage remarquable. Puis la plupart du temps, c'est des infolettes qui sont gratuites. Donc, on ne peut pas trop se plaindre dans ce temps-là.
Super, Luc Dupont, toujours un plaisir. Bonne semaine et à la prochaine. Salut.
Bonne fin de semaine
bye
à
bye.
Vous deux. Bye-bye.
Salut.
Voilà, Luc Dupont. Je voulais avoir un gros time avec lui.
C'est fait.
On a eu un gros time.
Yes, sir.
Avec Luc Dupont. Là, on ouvre les lignes.
88-670-9098.
C'est assez facile.
Ben là, c'est parce que la CAQ a soulevé ben, le point ouais, ce matin.
Un ballon d'essai, là.
Un ballon d'essai?
Ouais, on va dire ça de même.
On a lancé le ballon d'essai dans les airs. Et on propose que peut-être que le troisième lien entre Québec et Lévis qui va se faire, là, inévitablement.
C'est ce qu'on nous dit, là.
Pourrait être payant. Tarification dynamique.
Ouais.
Comme on voit ailleurs au Québec, tarification dynamique, en fait.
Le pont de la 25, là.
Oui, c'est ça.
Je pense que c'est 4 piastres passé là en temps. Comment qu'il appelle ça?
Si tu passes, mettons, pas à l'heure de pointe, c'est moins cher.
C'est ça.
Bien là, à l'heure de pointe, c'est plus cher. Puis on peut charger aux essieux aussi, ouais. Tout ça. Donc, seriez-vous d'accord à ce que le troisième lien entre Québec et Lévis soit un lien payant? Moi, tant qu'il y en a un, payant ou non,
ouais, mais c'est, m'en sac. Il est-il à bonne place?
Ben, c'est sûr
moi,
que non.
Moi, je pense qu'il n'est pas à bonne place. Encore là, moi, je paierais pour un pont au bout de l'île, là, pour faire un périphérique, un. Puis ouais. Deux, pour sauver du temps, parce qu'il y a des gens qui vont sauver du temps.
Ça, je suis entièrement d'accord.
Tu reviens sur la capitale en haut, dans le trafic. Ça marche pas, ça. L'emplacement est pas bon.
L'emplacement est pas
puis
bon.
Puis là, ils nous lancent la balloune du payage.
Moi, là, je dis, ça en prend un. Puis là, quand on a parlé, il y a une couple de mois...
Ça prend un pont.
Je disais, ça prend un pont, ça prend un lien, non, c'est sûr. Ça prend un pont à l'est.
Ça prend deux ponts.
Moi, qu'il soit payant ou non, personnellement, massacre.
Le pont de Québec, là, c'est fini, ça.
Ben, pour la porte, regarde, on a été obligé de mettre 2, quelques millions là, d'asphalte. En urgence d'asphalte.
En passant, les suspentes du pont n'ont pas été faites.
Pas réglé, là.
C'est pour ça que ça prend du temps, là, parce qu'on met de l'asphalte, mais il ne faut pas en mettre trop parce que les suspentes du pont sont à refaire.
Donc, 88-670-9098, êtes-vous d'accord avec le payage?
On revient.
Couture.
Restez là, on revient dans un instant.
Dans le Mid, Radio X.